L'Agence internationale de l'énergie atomique l'a vérifié ces dernières heures. Des obus d'artillerie ont endommagé dimanche une installation de recherche nucléaire en Ukraine. Nouveau bombardement russe depuis le 24 février. Vladimir Poutine, là c'est le nucléaire militaire, a mis en alerte la force de dissuasion russe. Et le vendredi 4 mars, l'armée a bombardé un bâtiment annexe de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le nucléaire vu de Moscou, c'est votre vif de l'histoire, Jean Lebrun. Lorsque Poutine menace du feu nucléaire, on serait tenté de croire qu'il s'inscrit dans la tradition soviétique de la guerre froide. Eh ben non.
Je viens de lire en me grattant la tête une étude ébouriffante sur le sujet, signée Jacques Le Bourgeois et parue dans un collectif Les Imaginaires du nucléaire. Eh ben, vous serez peut-être surpris. Les Russes ont souvent eu du nucléaire une représentation plus tranquille que nous. Ce qui explique peut-être que Poutine en parle si facilement, comme un brûle-pourpoint. D'abord, il faut savoir qu'à l'origine, Staline n'avait pas laissé s'imposer une image trop effrayante d'Hiroshima. Tant qu'il ne disposait pas lui-même de la bombe atomique, il convenait de la présenter comme une arme à peine un peu exceptionnelle. Et quand les premiers essais eurent lieu, à partir de 1949, Staline se garda bien de s'épancher sur eux. Au milieu des années 50, il fut seulement permis de chanter les progrès apportés par le nucléaire civil. Vous venez de faire la différence. Le domaine de la physique nucléaire en URSS resta entouré du plus grand secret. Main d'œuvre du goulag sur les lieux d'extraction de l'uranium. Personnel scientifique verrouillé dans des villes spécialisées, les atomgrades. On se vantait du Spoutnik, pas de la bombe. Et quand on le disait souvent, qu'il y avait une menace nucléaire, elle ne pouvait venir que de l'autre.
Grande différence avec aujourd'hui, Moscou voulait alors apparaître comme une puissance de paix?
Ben oui, il pouvait arriver aux dirigeants soviétiques de parler violemment, comme Poutine. On se souvient de Khrouchtchev frappant la table de sa chaussure, mais c'était à l'ONU, dans une enceinte internationale, qu'il ne viendrait plus à l'esprit de Poutine de fréquenter encore. Comment, avec son langage d'aujourd'hui, se faire des amis dans le monde, au mieux des clients effrayés? À l'époque de la guerre froide, les soviétiques, eux, laissaient les bombes dissimulées dans leurs bases et avec le relais des partis communistes locaux et du mouvement de la paix, ils cherchaient à impressionner positivement les opinions publiques en procédant sans cesse à des lâchers symboliques de colombes, vous savez, les fameuses colombes dessinées par Picasso.
Certes, mais les crises n'ont pas manqué quand même.
62, Cuba, l'installation de fusées menaçant les États-Unis. Fin des années 70, les missiles SS-20 menaçant cette fois l'Europe. Mais à chaque fois que le danger a été frôlé, Moscou a accepté d'entonner ensuite le discours rassurant de la limitation des armes les plus dangereuses. Ses dirigeants pouvaient être persuadés que la querelle entre les deux grandes idéologies devait être vidée un jour, mais ils se livraient en attendant à des concours de vertu. C'est ainsi que les soviétiques auraient été globalement moins inquiets du risque nucléaire que les occidentaux.
Jusqu'à 1986, c'est Tchernobyl.
Gorbatchev avait alors accédé au pouvoir, il pratiquait la transparence en même temps que le discours pacifiste. Quand survint l'accident de Tchernobyl, les instruments utilisés par lui pour l'ouverture se retournèrent contre lui. En la circonstance, Jacques Le Bourgeois, dont j'ai cité le texte au début de cette chronique, observe que l'opinion russe, cette fois, a rejoint l'opinion occidentale dans le même effroi qu'on se souvienne des livres de Svetlana Alexeyevitch, qui rapproche les soldats ramenés morts d'Afghanistan de leur cercueil de plomb, des liquidateurs qui s'étaient portés sur le front de la centrale. Poutine va-t-il mesurer les effets psychologiques sur sa population d'un accident qu'il pourrait provoquer dans une centrale ukrainienne?
Et ce texte de Jacques Le Bourgeois est dans un recueil collectif publié en septembre dernier chez Odile Jacob, Les Imaginaires nucléaires. France Inter.